Le film était bien? La séance vous a plu? C'est l'heure de la chronique ciné.
Voilà. C'est l'heure de la chronique de Simon sur je ne sais pas quoi.
Bonsoir tout le monde. C'est Simon pour la chronique que Yann ne sait pas ce que c'est.
Est-ce que je t'envoie un bed?
Oui, tu... Un quoi?
Un bed.
C'est quoi?
Un bed sous ta voix, un bed.
Musique.
Oh, mais oui, bien sûr. Bah oui, bah, on j'ai eu t'en filer un du coup.
Ouais, c'est, oh là. C'est ça que tu veux?
Oh, c'est très magnifique. Oui.
Ok, bah, amuse-toi bien maintenant. Bah,
merci beaucoup. Et du coup, bonsoir tout le monde. Alors, du coup, tout l'été est passé depuis la dernière de la Geek Nation de la saison 2.
Oui, c'est un fait. Nous sommes en septembre. Nous enregistrons en septembre cette émission.
Merci, c'était la fin de ma chronique. Au revoir.
Bonne soirée.
J'ai profité du coup de cet été, contrairement à pas mal d'autres fois, pour réviser un peu ma culture cinématographique. Et rattraper énormément de choses. Je crois que j'ai jamais eu un été aussi chargé en découvertes cinématographiques et je vais, via cette chronique, vous en partager quelques-unes. Je dirais que j'ai vu un total, j'ai dû découvrir une bonne quarantaine, cinquantaine de films. Bon, c'est pas non plus le plus gros lot de films qu'on a jamais vu, mais j'ai envie d'en partager quelques-unes avec vous, des plus grandes surprises ou des découvertes les moins connues. Enfin, vous touchez quelques mots sur quelques films que j'ai pu découvrir, certains classiques que j'ai enfin rattrapés, certaines découvertes que je voulais faire depuis très longtemps et certains films que j'ai fait exprès de m'infliger. Je vais y revenir dans un petit instant. Mais avant de commencer ça, je voulais aussi revenir sur une jolie découverte que j'ai fait cet été. C'est un jeu cinéma que j'ai envie de vous conseiller de faire. C'est pas sponsorisé, c'est pas un placement de produit. Je l'ai découvert il y a quelques jours et j'ai très envie de d'inciter les gens vers ça. Il n'existe pas sur application. Je l'ai trouvé sur mon Safari sur mon téléphone. Donc j'imagine que vous pouvez trouver ça sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. C'est un jeu qui s'appelle Un jour un film. En quoi consiste ce jeu? En fin de compte, vous allez sur le site et chaque jour vous devez trouver le film du jour. Ça peut être n'importe quoi en général. C'est un film qui est un tant soit peu connu dans le pays où vous jouez. Et vous dites des films au hasard. Enfin, vous commencez d'abord par les dire au hasard. Et à chaque fois, le jeu vous indique le film que vous devez trouver a des points communs avec celui que vous avez proposé. Par exemple, je sais pas, si vous proposez par exemple au grand hasard, je sais pas, Interstellar. Et ben, si dans le film que vous devez chercher, il y a des acteurs en commun, et ben vous dire, oui, c'est un film devant lequel il y a bien Matthew McConaughey, il y a bien Ellen Burstyn. Ils vont dire, ça a bien été produit par tel studio, ça dure bien telle durée, c'est sorti dans telle période. Et à chaque fois, du coup, ben, à chaque fois que vous mettez un film, ça vous donne des indices en plus ou ça ne vous en donne pas si jamais vous avez aucun point commun, jusqu'à ce que vous trouviez le bon film. Le but est bien sûr de le trouver en faisant le moins de tentatives possible. Si vous voulez un petit exemple, personnellement, il m'a fallu, le premier jour où j'ai testé, il m'a fallu 6 tentatives pour trouver Men in Black. Parce que le jeu m'avait indiqué juste avant ça qu'il était sorti en 97, m'avait indiqué, je crois, le studio qui m'a fait que je l'ai retrouvé, la classification tout public et la durée, et science-fiction, aussi le genre. Donc si ça vous tente vraiment chaque jour, moi je suis devenu addict à ce jeu depuis 3 semaines, là je suis en train de remonter tous les jours que j'ai loupé. N'hésitez pas. Mais du coup, pour faire un petit détour sur quelques films que j'ai découverts ces derniers temps, alors je vais vous faire une petite, une sorte de petit flash dans lequel je vais vous enchaîner une petite vingtaine, trentaine de films que j'ai pu découvrir en vous donnant un petit avis, excusez-moi, un petit avis expéditif sur ce que j'en ai pensé et comment j'ai découvert. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des unpopular opinions, comme on sait, enfin comme on connaît. Il va y avoir des découvertes dont on va me dire, mais t'as mis tant de temps que ça avant de voir ce film. Et oui, on est tous comme ça dans chez les cinéphiles.
Ça va finir en tier list.
Ça pourrait même, j'aurais même limite dû faire ça. Si j'avais été sur Twitch, je l'aurais fait de ouf. Et je vais commencer par toucher deux films qui appartiennent à une catégorie très spéciale. Puisqu'on a pris le temps, alors c'était un peu au début de l'été avec Raphaël, de se faire des découvertes assez spéciales, puisque chacun d'entre nous a fait découvrir à l'autre les 6 films préférés que l'autre n'a pas vus. C'est-à-dire que Raphaël m'a montré ses 6 films préférés que moi je n'avais jamais vus, et en retour je lui ai fait la même chose. Et il y a deux films qui m'a fait découvrir, qui m'ont particulièrement plu et sur lesquels je voulais toucher deux mots. Je vais commencer éventuellement par le moins connu de la sélection, que j'avoue je ne connaissais même pas avant qu'il m'en parle. Un film qui s'appelle I Love You Man, qui est une très chouette comédie sur l'amitié avec Paul Rudd, qui va donc bientôt se marier, mais qui se rend compte qu'il n'a pas vraiment de témoin à qui confier la fonction de témoin à son mariage. Et il va faire une rencontre à ce moment-là qui va un peu changer sa vie, sa vision de l'amitié. Donc c'est un film qui questionne beaucoup qu'est-ce que c'est que l'amitié, quelle place elle a dans notre vie, au sein de notre couple. Et j'ai énormément apprécié donc déjà l'humour du film, les personnages et les questionnements que ça a pu poser. C'est peut-être un des plus beaux films, je dirais, sur l'amitié que j'ai pu voir de ma vie. En vrai, ça a été une énorme surprise et c'est vraiment le film dont j'avais le moins d'attente parce que c'est celui que je ne connaissais pas. Et un autre film un peu plus qu'on pourrait plus qualifier de classique, dont j'avais pas trop d'attente, je pensais pas qu'il me plairait à ce point, mais c'est le fameux Easy Rider, donc sorti, réalisé par Dennis Hopper, si je me souviens bien.
Exact.
Voilà, avec, rappelle-moi le nom de l'acteur, Fonda, c'est Peter. Henry Fonda, je crois.
Non, Peter.
Non. Ah oui,
Peter.
Non, Henry, c'est le père, c'est ça.
Henry Fonda, oui. C'est le père.
Merci beaucoup, le fils
Peter.
Peter Fonda. Donc un film contemplatif qui m'a beaucoup rappelé, je dirais, un peu Into the Wild dans la façon qu'il a de voir un peu l'Amérique de son temps, les jeunes de l'époque. C'est très contemplatif et donc du coup t'as facilement sur 1h30 une bonne heure de film où c'est que du paysage, de la balade en moto, mais tout est toujours très clair pour te faire comprendre ce que les personnages vivent, comment ils ressentent ce qu'ils vivent et quelle vision ils ont du pays dans lequel ils vivent. Donc c'est un peu la vision jeunesse de l'époque et c'est un film qui donc aussi est très fort, notamment dans son final que je ne dévoilerai pas, mais donc je conseille vivement de rattraper ce film.
Et 5% de Jack Nicholson au milieu.
Et oui, en plus, il y a 5%.
Un peu plus
même,
que 5%.
Même 20%, j'ai même envie de dire, parce qu'en vrai, il a été présent, je m'y attendais pas, quoi. Mais si je devais continuer du coup dans des sélections un peu plus classiques, je dirais que le gros classique que j'ai enfin rattrapé, et là je vois Raph et Flo qui font une tête pas possible en mode t'avais jamais vu ça, et bah oui, jusqu'à avant cet été je n'avais toujours pas vu Un jour sans fin et je l'ai enfin
c'est une honte, bordel.
Oui, c'est honteux.
C'est une des meilleures comédies qui ait jamais été faite.
Et vous, c'est quoi le plus gros film que vous avez jamais vu de votre vie là?
Gladiator.
Ah là, tiens,
et j'en suis
honte.
Fier. Et j'en suis fier.
Et quelle honte.
Le retour du roi.
Quelle honte. Et
toi, quelle honte. Quelle honte.
Voilà, quelle honte. Et ben voilà.
Le je vous expliquerai.
T'as pas vu Avatar?
Ni le 1, ni
c'est
le
moins
2.
Grave que le retour du roi.
Mais oui, et vraiment, oui, comment j'ai pu passer 30 ans sans voir ce putain de film? Un magnifique exploitation du voyage dans le temps via le montage, l'écriture, la musique et la super comédie romantique que notre protagoniste vit. C'est jamais ennuyeux, c'est super rythmé, c'est simple, c'est magnifique, c'est super fun. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire. Si vous n'avez jamais vu ce film, on peut pas détester ce film. C'est un de ces films
et
que.
Andy McDowell.
Et Andy McDowell, voilà, ça. Merci. Et la voix de Richard Darbois, je l'ai regardé en VF parce que je savais qu'il y avait Darbois. Alors pourtant, c'est le genre de film que je devrais plutôt mater en vue aujourd'hui, mais Darbois, on t'aime, t'es génial.
Et la marmotte.
La journée de la marmotte.
Un double whoopi.
Eh oui, ça. Un rattrapage assez récent. Et là, je crois que Flo va peut-être vouloir toucher deux mots sur le film en question, s'il en a envie. Mais j'ai rattrapé un petit classique sorti il y a moins de 10 ans, un classique espagnol, enfin classique, je sais pas, mais un film espagnol qui m'a vraiment très bien surpris, qui s'appelle Les Sorcières de Zugarramurdi.
Ah ouais, j'ai vu en salle celui-là.
Ouais, je m'étais jamais imprégné de l'univers de Alex de la Iglesia, je crois qu'il s'appelle comme ça. Pour moi, ça commence comme de façon aussi, je vais pas dire potache, mais aussi trash et invraisemblable et fou que peut avoir chez Wes Anderson ou chez Dupontel. Bon, les cadrages en moins, mais je veux dire dans le côté très absurde de la situation. Et après, quand on exploite le coin dans lequel nos héros atterrissent avec toutes les sorcières, tous les fétiches, tous les ah mais oui, non mais totalement. Oui, c'est limite ça, ça s'emballe beaucoup à la fin, mais c'est très fun, c'est un peu bousculant sur la fin, mais je vous conseille vraiment de le regarder. Ça a été une jolie claque visuelle et même sensorielle, j'ai envie de dire. J'en ai également aussi profité pour rattraper un autre classique, Metropolis de Fritz Lang, sûrement le plus vieux film de toute la sélection que j'ai rattrapé. C'est vrai que le film est peut-être un chouïa long parce qu'il dure quand même 2h30, mais en vrai il est très rythmé, déjà parce que le film a inspiré énormément de classiques de science-fiction. Je citerai Blade Runner, le premier qui me vient dans son esthétique, l'impressionnisme allemand. Si vous avez déjà entendu parler de ce terme, bah, c'est là qu'il vient, limite. Fritz Lang était un peu le visionnaire de l'époque. Tu voulais dire quelque chose peut-être?
Ah, on est plus vers la fin de l'expressionnisme allemand.
Ouais, mais c'était plus pour dire que c'est celui qui est le plus connu aujourd'hui, je pense, après. Mais
c'est surtout Nosferatu et Caligari qui sont les représentants de l'expressionnisme allemand.
C'est vrai. Après, j'avoue, j'entends plus Metropolis dans le cité, mais vous avez aussi raison. C'est vrai que ceux-là sont des
Metropolis quand même un peu. Bien
des
sûr.
Très grands exemples aussi. Et c'est vrai que c'est un film qui exploite très bien la thématique de l'époque de riche versus pauvre. C'est encore des trucs qu'on peut encore traiter aujourd'hui, notamment vis-à-vis comme des films comme Parasite. Oui, qu'est-ce que tu
veux? Et pour celles et ceux qui ont vu le clip Radio Gaga de Queen, c'est des images du film.
Et ben voilà, tout à fait. Donc si vous avez peut-être déjà vu ce film en partie grâce à Radio Gaga.
Ouais, mais non. Ouais, mais non. Parce
que, mais il en existe plein de versions. Hein.
Parce que la version de Giorgio Moroder avec la musique de Queen dessus, non, plus jamais.
Ouais. Je vais aborder très vite fait deux zones popular opinion, puisque j'ai découvert deux classiques qui sont très appréciés des gens, mais que manifestement, c'était pas des films faits pour moi. Et pourtant, dans le style de réalisation, ils se rejoignent peut-être, sauf qu'ils ont à leur tête deux auteurs qui sont tout de même assez différents dans la façon qu'ils ont de traiter leur thématique, puisqu'il s'agit de Laurence Anyway de Xavier Dolan. Je suis pourtant un très bon admirateur de Xavier Dolan, notamment par des films comme Mommy ou J'ai tué ma mère, que je trouve que ce sont des films mais incroyablement au niveau sensoriel, au niveau musical et au niveau du cadrage. Pourtant, Laurence Anyway, j'ai pas pu m'empêcher de trouver le film assez insupportable et vraiment très très long, très lourd, et ce film n'était peut-être pas fait pour moi, tout comme le fameux film de Lars von Trier, qui je pense est définitivement le réalisateur que à chaque fois que je vais me mater un film, c'est vraiment parce que je suis maso, puisque j'ai maté son grand classique qui s'agit de de, ben, je le cherche depuis tout à l'heure, c'était avec la chanteur Dancer in the Dark, merci beaucoup. Lui aussi, très très long, sa boîte musicale, mais je trouve que c'est un, ça se complète dans ça. Ça se complète dans les larmes, dans tout ce qui va mal dans la vie, tout
c'est
ça.
C'est une tragédie musicale, ce
film.
Ah
oui, mais même la partie musicale, je ne l'ai pas trouvée belle, parce que c'est filmé en amateur, comme tout le reste du film, et c'est pas beau.
Mais moi, t'as Catherine Deneuve, qui justifie le côté comédie musicale.
Oui, pas ça. Heureusement qu'il y a ça pour remonter un peu le niveau, mais franchement, non, moi, je suis définitivement pas rentré dans le délire de celui-ci.
Ah bah, c'est limite à se tailler les veines à la fin, tellement il lui arrive que de la merde.
Ah bah oui, mais justement, en général, quand c'est juste à se tailler les veines gratuitement, j'ai trouvé ça un peu gratuit, personnellement, moi j'y arrive.
La pauvre Björk.
Ah oui, la pauvre Björk.
Je la compare souvent à Shelley Duvall. Hein. Elle a vécu la même
chose.
C'est vrai,
putain, c'est vrai en plus. Ouais. Mais un autre film, enfin un autre, et encore, un autre film, je vais plutôt dire un mash-up que j'ai enfin pu découvrir, que je voulais voir depuis des années, que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous aviez vu l'épisode final de Noon Movies il y a des années, le fameux Final Cut Ladies and Gentlemen, qui est certainement le plus bel hommage que j'ai vu au cinéma de ma vie. C'est tout simplement un film qui te raconte une rencontre entre un homme et une femme, c'est écrit sur un post-it, mais tout est raconté via des images de je crois, d'à peu près 5000 films que le réalisateur a pioché et qu'il est capable de te mettre la rencontre entre... il te met la tête de Roberto Benigni de La vie est belle, et sur le contre-champ, il peut te mettre la tête d'une princesse Disney, voilà, et après, il passe d'un autre film à un autre, et on enchaîne toutes les situations qu'on peut imaginer dans le cinéma pour te foutre n'importe quel extrait de n'importe quel film pour des occasions très inattendues. J'en dis pas plus, mater des extraits, mater ce film, c'est le plus bel hommage que j'ai vu de ma vie au cinéma, et c'est certainement le meilleur truc que j'ai découvert cet été. Et une autre claque à laquelle je ne m'attendais pas étant Mr. Nobody de Jaco van der Mel, si je prononce bien le nom, pour le coup que je n'attendais pas parce que c'est un film qui est quand même aussi dure 2h30, mais c'est une des plus belles claques philosophiques que j'ai pu avoir de ma vie sur quels sont nos choix, quels impacts ils peuvent avoir sur notre vie et qu'est-ce qui aurait pu se passer si on ne l'avait pas fait. Est-ce que vous l'avez peut-être vu, vous, celui-là? Je suis bien curieux. Hein.
Non, malheureusement.
Non, mais toi, il y a longtemps, Flo, ouais, au cinéma peut-être?
Non, chez moi, mais ouais. Alors, je m'en souviens quasiment plus, très sincèrement. Ouais. Je me souviens que de quelques extraits, mais ouais. Je sais que c'est Jared Leto qui a...
Oui, c'est Jared Leto qui interprète le personnage principal. Et vraiment, moi, en 2h30, je me suis jamais ennuyé parce qu'à chaque fois, à chaque scène, tu as toujours une astuce de montage, toujours une astuce de réalisation qui, moi, m'a complètement captivé. Mais comment est-ce qu'il a fait ça, le mec? Ça tient sur 2h30, c'est très philosophique. Donc, foncez sur celui-ci, c'est complètement barge comme film. Et alors là, je pourrais aussi citer un autre classique que, pour le coup, Raphaël m'avait conseillé de mater pendant très longtemps, Les Sentiers de la Perdition, qui était donc réalisé par Sam Mendes, donc Skyfall, Les Noces Rebelles et American Beauty.
Merci.
Et étant un film de gangster, j'avoue que je ne suis pas forcément très film de gangster, mais alors celui-là, je l'ai tellement bien ressenti parce que je comprenais totalement. Enfin, je trouve qu'on comprend très bien les émotions des personnages, le dilemme de Tom Hanks vis-à-vis de son fils et comment il est lié à sa famille qui a toujours été dans la mafia. Et en plus, les plans sont magnifiquement composés, sont complètement incroyables. C'est jamais mollasson, c'est toujours captivant. Lui aussi, je le conseille de ouf.
Paul Newman.
Et ouais, Paul Newman, Paul Newman.
Dans un de ses derniers films.
Ouais, dans un de ses derniers films en plus. Et je pourrais également citer, alors je vais aborder une catégorie de 4 films, mais j'en ai encore éventuellement un à citer avant, parce que j'avoue que le... avant de citer ça...
Flo et Tilar.
J'aurais pu, le film que je vais vous citer, j'aurais pu le mettre dans la catégorie des films que je vais citer après, et je m'y attendais un peu, mais alors putain, j'ai été tellement subjugué. Je vais vous dire un truc, je fais partie de cette tranche de personnes qui détestent l'humour de Laurent Baffy, qui détestent son attitude de sniper, je vais pas forcément développer, c'est très personnel, je l'admets. Et donc quand j'ai appris qu'il avait réalisé un film, ça s'appelle Les Clés de Bagnole.
N'y allez pas,
c'est une merde, c'est ce qu'il y a écrit sur l'affiche. Je me dis, oh là, mais qu'est-ce que c'est le mec, qu'est-ce qu'il a la prétention de faire un film avec 20 millions d'euros de budget, je crois. Mais ayant appris qu'en plus ça l'avait endetté pendant une bonne dizaine d'années, tellement le film s'était planté, je me suis dit, allez, je vais quand même tenter, on va voir si c'était mérité. Qu'est-ce que c'est génial. Alors, génial, j'exagère peut-être un petit peu parce que j'ai potentiellement baissé mes attentes, mais c'est vraiment l'histoire d'un mec qui, justement, c'est Laurent Baffy qui, au sein du film, veut faire son film et qui n'arrête pas. Alors, c'est un petit sujet, c'est qu'il n'arrête pas de justement justifier et de citer ce qu'il est en train de faire pour son film. Bah, tu vois, c'est là, on est en train d'écrire un dialogue. Oui, mais pourquoi t'as dit ça? Bah, parce que c'est écrit dans le texte. Mais ça aussi, t'as beaucoup d'astuces de montage et t'as beaucoup de trucs qui sont très inattendus, alors que pourtant, tu t'attends à tout ce qui va se passer. Là aussi, c'est très maîtrisé, c'est très surprenant et ça mélange tous les genres et. Ils te font un cahier des charges au début de tout ce que t'aimes dans le cinéma et ils arrivent à te le caler à toujours à un certain moment du film. Donc vraiment, je l'ai trouvé sur YouTube pour le coup, donc vous pouvez le trouver sous YouTube, je vous le conseille, il dure même pas 1h30, il y a des tas de caméos qui sont magnifiquement utilisés, j'ai vraiment été magnifiquement surpris Flo.
Dans ce film, il y a une des plus belles scènes de chiottes du cinéma.
Oui.
Et pourtant, pour ceux qui l'ont pas vu, franchement.
Habituellement, j'aime pas les scènes de chiottes, et puis là, même là, je suis dans
le haut. Magnifique.
D'accord. Oui, c'était sublime. Donc franchement, je vous le conseille.
Tu as réussi juste en un mot à me donner envie de le voir.
Voilà. Putain. Alors que moi, je me casse le cul depuis 5 minutes à lui donner envie. Et
je peux te donner aussi un autre mot. Non.
T'aimes pas du tout, toi.
Si. Mais si tu te souviens du début du film, oui. le début du film est basé sur le mot non.
Ah mais oui, totalement, oui. Non. Voilà, hésite pas à voir ça, c'est magnifique. Toi, tu l'as pas vu, Raph, du coup.
Non, je l'ai pas vu. Non.
Ah bah honnêtement.
C'est aussi, c'est aussi l'occasion pour Buffy de parler de sa passion des animaux.
C'est pas faux. Mais toi, je suis sûr que tu te connaissant Raph, tu vas adorer. Enfin, tu vas au moins respecter le truc et tu vas passer un bon moment.
Bah, je suis pas un aficionado non plus, mais c'est vrai que j'aime bien l'humour de Buffy. Puis ouais. j'avais pas mal entendu parler de ce film.
Bah justement, c'est assez différent justement, parce que là, son humour il passe beaucoup par la façon dont il fait le film et par le montage. Donc c'est pour ça que du coup, je suis totalement rentré dedans. Ouais. Et du coup, on va péter un petit coup en parlant du fait que je me suis quand même j'ai 4 bons films de merde que je devais voir depuis très longtemps, parce qu'en général, j'ai pas que ça à foutre que de mater des films pourris, parce que je me dis la vie est trop courte pour s'infliger de la merde. Je sais, il y en a qui vont me dire qu'il faut bien mater des mauvais films de temps en temps pour distinguer les bons des mauvais. Je suis totalement d'accord. C'est même pour ça que je me suis dit allez, je vais me faire Ghost of Egypt. C'est très moche. Je vais me faire Le Fils du Masque. C'est encore plus moche. C'est pas drôle. C'est une horreur et c'est une grosse insulte.
C'est une honte.
À l'original avec Jim Carrey. Après, l'ayant pas vu en étant enfant, ou alors ne l'ayant pas vu en étant de grosses attentes, vu que je savais que le film allait être une merde, j'étais en mode oui, c'est ce que j'attendais, c'est totalement pourri. Et puis m'étant en plus beaucoup empiffré les vidéos de Not Serious, la suite de trop et tout ça, je savais typiquement ce que j'allais avoir.
Voilà, ouais.
Par contre, je peux tout de même vous citer une anecdote. Vous qui avez vu le film, vous connaissez forcément la scène de la fécondation. Je vais pas dur en dire plus parce que ça donne déjà suffisamment envie de gerber. Elle était pas dans le DVD que j'avais. Parce qu'elle a été censurée aux États-Unis, donc manifestement j'ai récupéré à la bibliothèque une version où elle n'était pas dedans. Alors heureusement que j'avais vu cette scène dans la vidéo, notamment les vidéos que j'ai citées, parce que du coup je me suis dit, mais elle est où cette scène, elle n'arrive pas. Et après j'ai été faire mes recherches et en fait la scène n'était pas dedans. Donc je vous remercie de m'avoir suggéré les vidéos que j'ai regardées, comme ça j'ai pu voir cette scène à l'avance et me dire, ah ouais, ça justifie tellement la médiocrité de ce film, c'est tellement horrible et moche. Et je me suis aussi enfourgué Les Visiteurs en Amérique, que je voulais voir depuis très très longtemps.
Il est sympa, André le Pâté.
Et ben André le Pâté, il est très très drôle. Et en vrai, j'ai pas autant gerbé que je l'aurais cru, parce que c'est clair que le film est pas bien. Mais déjà, c'est pas pire que Les Visiteurs 3, La Révolution.
On est d'accord.
Clairement, parce que lui, au moins, il a une histoire qui raconte de A à B. Il n'y a pas forcément besoin de suite à celui-ci. J'ai trouvé, c'est très pathos, c'est très hollywoodien, c'est très cliché. Et l'humour français ne fonctionne pas. Il y a des tas d'incohérences sur le voyage dans le temps. Et t'as Malcolm McDowell qui est complètement gâché. Je ne sais pas ce qu'il est allé foutre.
Et Chris Columbus avec. Et John Hughes avec.
Et voilà, à la production et au scénario.
Est-ce que Christian Clavier a joué dans un autre film américain?
Mais non, c'était sa première et dernière incursion aux États-Unis. Donc oui. Oui,
je réfléchis, la question m'intéresse.
Donc oui, c'est totalement nul, mais j'avoue que c'est celui dans lequel j'irais pas non plus dire que c'est la grosse daube qu'on m'avait vendue, contrairement au Fils du Masque typiquement, et contrairement au dernier. Mais oui, c'est une merde, hein, c'est une merde, je dis pas le contraire, hein. C'est juste que j'avoue que j'ai eu quelques petits instants où je dis, ah non, c'est pas mal, la relation entre André et sa...
Comment ça s'appelle,
sa dame Ginette, sa dame Ginette de ce film.
Ouais, c'est Tara Reid.
Tara Reid. Tara Reid, merci. Voilà.
Et elle s'appelle Angélique.
Oui, Angélique.
Je l'ai pas revue depuis des années, je me rappelle quand même.
Je l'ai trouvé assez sympathique, bizarrement. Cette sous-intrigue que t'as déjà dans le 1, mais je l'ai trouvé assez.
Rappelez-vous que Jaco, il a fripouille, il s'est doublé en français. pensez aux séquences de doublage de ces séquences-là.
J'ai une anecdote. Il a dû apprendre sur le tas l'anglais. Il savait pas parler un trait de mot d'anglais. Et du coup, quand il parle en anglais, tu sens qu'il a un accent.
Mais oui,
France a coupé au couteau.
Ouais, la VF est pas mieux, il sait pas se doubler.
Non, il sait pas se doubler, non.
Mais non, c'est clair.
Donc bon.
Et enfin, tout ça pour moi, j'avoue que niveau grosse daubasse que je me suis tapé et qui était bien à la hauteur de leur réputation, je peux bien vous parler de cette malédiction. Qu'est Arthur Malédiction. Ah, oh, quelle horreur. Oh mon Dieu. Alors, je l'avoue, celui-là aussi. Les 30 premières minutes, j'étais un peu en mode « Ouais, ok, bon, ça va un peu nulle part, les personnages parlent pour rien dire, mais j'avoue qu'il se passe pas grand-chose de si honteux que ça. » C'est parce que la partie horreur débute limite réellement dans le dernier tiers. Donc déjà, on te vend un film, c'est un film d'horreur basé sur Arthur et les Minimoys. Ça ne décolle que dans le dernier tiers. Mais déjà avant ça, c'est un vide complet, c'est absolument honteux en termes de montage et en termes d'acting. Bon, les comédiens font ce qu'ils peuvent, j'avoue que je m'attendais à encore pire vu ce qu'on en disait, mais en termes de scénario dans le dernier tiers. Je suis pas du genre à dire en général que les personnages sont cons gratuitement, mais là, les personnages sont complètement stupides et débiles. Ils prennent des décisions du style « Putain, on s'est fait agresser deux fois, on se sépare, oui, bien sûr !» Et puis, il y en a qui vont rester sur le coin pendant qu'on va chercher des secours. Ben oui, on risque absolument rien, quoi.
On a l'impression que tu nous cites le scénario de Ça, partie 2, le remake. Tellement il était affreux.
Ah, j'ai pas Alors, il était moins affreux que ça, parce que lui, au moins, il était pas trop mal joué, pas trop mal réalisé. Alors qu'Arthur Malédiction, c'est... Pouh. Avec en plus une justification, alors la justification complètement pétée, je peux la spoiler, j'en ai rien à foutre, de toute façon, on vient juste dire, non, en fait, cette malédiction, c'est juste des gens qui ont traumaté Arthur et Minnie Moyes et qui ont voulu faire exactement le même type de rituel à tuer des gens, comme quoi un simple film, ça peut provoquer des dégâts. Merci, j'avais même l'impression que tu t'es auto-dénoncé. Voilà. Quelle putain d'horreur. C'était mes découvertes de l'été.
Et c'est un peu ce film, la plus grande exploitation de stagiaires de toute l'histoire du cinéma.
Oui, en plus, la production était tellement honteuse. Film est une honte, ouais. Ah non, mais c'est une honte. Le film se pignole sur sa propre licence pendant la première moitié avant de te sortir des trucs complètement stupides pendant la deuxième moitié. C'est... Bref, très bel été quand même.
On espérera que le prochain film de Besson sera d'un meilleur niveau.
Bah, il sort dans quelques jours, je
crois. Bah voilà, avec Donald Reigneux sur la VF.
Oh oui, c'est vrai en plus.
Est-ce que quelqu'un en a encore quelque chose à foutre qu'il sorte un film? Bah, je crois pas Donald Reigneux, hein, je précise.
Ah, oui.
La Mostra de Venise.
Oui, voilà, manifestement.
Alors, pardon, mais la Mostra de Venise, ils ont passé le dernier film de Roman Polanski aussi.
Hein. Et Woody Allen.
Et Woody Allen.
Tous les mecs, enfin, tous les réels les plus cancels. Non, peut-être pas Allen à ce point, mais quand même.
Pas
très loin quand même.
Soit dit en passant, pour Dogman, le prochain film de Besson, qui a l'air d'être une espèce de copie de Joker quand tu mates la bande-annonce.
Ouais, c'est pas faux.
Besson est en avant-première, personnellement, où il vient dans une des salles de la région dans pas longtemps. Je sais que ça va servir à rien, cette info, mais j'ai des amis qui sont à deux doigts d'y aller pour manifester devant la salle de ciné, sans déconner.
Bah, voyez-vous ça.
Préparer les tomates.
Ouais, et les pancartes, bref.
Ouais.
On passe à la suite. Je pense que c'est mieux. Évoquer Besson, je pense que c'était le fond du gouffre. Bref, on se retrouve tout de suite.